Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, en cours, une conférence internationale de soutien et d'appui au Liban, invitée de ce journal. Sahar Al-Attar, rédactrice en chef du magazine économique libanais Commerce du Levant. Ce fut l'un des acteurs les plus engagés depuis 1968 dans la défense des Indiens et des paysans sans terre. L'évêque Pedro Casal Daliga est mort à l'âge de 92 ans. Portrait avec Anne Vigna. Otsoufi nous appellera de Londres. Londres qui attend de Paris plus de moyens pour réduire le nombre de traversées de la Manche. 500 réfugiés ont gagné les côtes anglaises ces trois derniers jours. Et puis, au risque de marée noire sur l'île Maurice, la coque du vraquier japonais qui s'est échoué le 25 juillet dernier en zone protégée menace de rompre. 3800 tonnes d'huile lourde dans ses cuves. La réaction de l'ONG Surfrider Foundation. Mais avant de développer ces titres, cette attaque au Niger qui aurait coûté la vie à 8 personnes, dont 6 touristes français. Information livrée par l'agence France Presse qui cite le gouverneur de Tillabéri au sud-ouest du pays. Avec vous, Nathalie Hernandez, les informations dont nous disposons.
On sait encore très peu de choses sur l'attaque qui aurait coûté la vie à 8 personnes, 2 Nigériens et 6 touristes français. Le ministère français des Affaires étrangères indique d'ailleurs que des vérifications sont en cours. Selon une source contactée par l'agence France Presse, l'attaque aurait eu lieu dans le sud-ouest du Niger en fin de matinée, vers 11h30, tout près de la localité de Kouré. Kouré qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest et qui est situé à une 60aine de kilomètres de la capitale Niamey. Selon l'AFP, la plupart des victimes ont été tuées par balles. Une femme qui a tenté de s'enfuir a, elle, été égorgée. Un chargeur vidé de ses cartouches a été retrouvé sur place. Toujours selon l'agence France Presse, les assaillants seraient venus à moto, à travers la brousse, et ils auraient guetté l'arrivée des touristes. Cette région du Niger fait partie de la zone des trois frontières, dans laquelle les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique font régner la terreur depuis plusieurs années. En 2019, près de 4000 personnes ont été tuées au Burkina Faso, au Mali et au Niger.
Répondre au plus vite à une litanie d'urgence en matière de santé, de relogement temporaire, de protection, d'hygiène, d'éducation, de sécurité alimentaire et de logistique. Défi en série, 5 jours après la tragédie. Une visioconférence co-présidée par les Nations Unies et la France a débouché, est en train de déboucher sur un plan d'aide au Liban. Emmanuel Macron a introduit cette conférence de la sorte.
L'explosion du 4 août a sonné comme un coup de tonnerre. Le temps du réveil et de l'action est venu. Les autorités libanaises doivent maintenant mettre en place les réformes politiques et économiques demandées par le peuple libanais et qui seules permettront à la communauté internationale d'agir efficacement aux côtés du Liban pour la reconstruction. Le peuple libanais est libre, fier et souverain. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. Nous devons tous ensemble tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter. En ce moment même et ces jours-ci, c'est bien l'avenir du Liban qui se joue. C'est bien l'avenir du peuple libanais, mais aussi celui de toute une région.
Emmanuel Macron, président de la République française, une seule donnée confirmée à l'heure qu'il est. La Commission européenne a ajouté 30 millions d'euros, 33 millions alloués avant-hier pour financer l'aide d'urgence au Liban. Nous sommes, comme convenu, en ligne avec Sahar Al-Attar, rédactrice en chef du magazine économique libanais Commerce du Levant. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Sahar Al-Attar, évidemment, les conversations sont en cours. Peut-être avec vous, essayons d'imaginer quel dispositif, pas idéal, mais opérationnel, pour court-circuiter les réseaux et canaux qui jusqu'alors ont confisqué les fonds.
Ben oui, c'est ça un peu la grande question de comment l'aide internationale peut-elle contourner les institutions publiques qui sont jugées comme étant corrompues, qui le sont probablement, et qui répondent à des considérations très clientélistes de la classe politique. Alors le problème, c'est que étant donné l'aide dont on a besoin, je veux dire, on parle de besoins immenses, il est difficile d'imaginer que des ONG soient en mesure d'apporter une réponse à l'échelle du drame. Donc ça ça va être très compliqué. Alors, on parle peut-être d'un fonds indépendant. On n'a vraiment pas de visibilité, mais c'est effectivement très compliqué de contourner l'État. Et c'est ça qui est très triste, et c'est ce que révèle aussi ce drame. C'est la faillite de l'État libanais, la faiblesse de l'État libanais et de ses institutions, et ce qui rend la crise encore beaucoup plus compliquée à gérer.
Alors, y a-t-il au sein de la société civile des personnalités, des corps politiques autres que ceux qui ont failli et qui seraient en voie de bannissement?
Oui, c'est ce qu'on espère, mais c'est très compliqué. On sort de 30 ans d'immobilisme, d'inertie, un régime politique très très bien verrouillé en fait, donc qui n'a pas vraiment permis ni un renouvellement de la classe politique ni l'émergence de nouveaux acteurs. Alors aujourd'hui, avec l'accélération, c'est une crise qui dure quand même depuis octobre dernier. Il y a, avec cette nouvelle catastrophe, il y a une accélération, et on espère que ces forces d'opposition, cette alternative à la classe politique actuelle, va pouvoir émerger assez rapidement et puis il faut surtout que la classe politique actuelle accepte de céder le pouvoir, de laisser sa place, reconnaisse son échec. Or, ils sont quand même très forts en déni, et ils voient dans cette aide internationale, le président de la République l'a annoncé lui-même, comme l'arrêt du blocus contre le Liban, comme si l'aide allait affluer et pouvoir remettre à flot cette classe politique. On espère que ce ne sera pas le cas, et puis surtout on sait que ce ne sera pas le cas, parce que derrière l'aide d'urgence, il y a une crise économique financière aiguë, et à ce niveau-là, la communauté internationale a été très claire. Il n'y aura pas d'aide massive au Liban. Et avant même cette catastrophe, on estimait déjà les besoins à plus de 10, entre 10 et 15 milliards de dollars. Donc les besoins sont immenses. Et si la classe politique n'est pas capable de faire les réformes qui ont été exigées, cet argent n'arrivera pas. Et clairement, jusque-là, la classe politique a été incapable et sera probablement incapable de mettre en œuvre ces réformes.
Sahar Al-Attar, on a le sentiment que des élections anticipées ne suffiront pas, qu'elles sont en quelque sorte invalidées d'avance. Vous partagez cette approche ?
Oui, évidemment, c'est un peu un piège de déplacer le débat, faire ces élections anticipées, parce que qui va organiser ces élections anticipées, sur quelle base, sur quelle loi électorale? Donc si c'est ce système, cette classe politique qui organise des élections anticipées, les jeux sont pipés d'avance. Et évidemment, aujourd'hui, les forces alternatives ou les forces d'opposition, ce qu'elles réclament, ce n'est pas... Et puis le Liban, surtout, n'a pas le luxe d'organiser des élections alors qu'il est en pleine urgence humanitaire. L'exigence aujourd'hui des partis d'opposition, c'est un gouvernement indépendant avec un gouvernement transitoire avec des pouvoirs législatifs qui, lui, permettrait de préparer le terrain à des élections transparentes, ouvertes et dans les meilleures conditions possibles. Mais dans l'état actuel des choses, ces élections anticipées ne serviraient pas à grand-chose, ne permettraient pas en tout cas le renouvellement de la classe politique auquel aspirent tous les Libanais.
Bien, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Sahar Al-Attar, rédactrice en chef du magazine économique libanais Commerce du Levant. En Inde, des dizaines de milliers de travailleuses du secteur de la santé, officiellement considérées comme bénévoles par le gouvernement, se sont déclarées en grève pour demander un meilleur salaire et plus de protection. La pandémie, avec des relevés vertigineux au Brésil, plus de 100 000 morts, 3 millions de cas de coronavirus confirmés, et Jair Bolsonaro qui s'applique à créditer les réseaux sociaux de quelques remarques qui ne concernent que les malades en voie de guérison. Fin juillet, Pedro Casaldáliga avait sévèrement critiqué le président d'extrême droite, lui qui avait résisté et survécu à la dictature militaire, aux accès mafieux des grands propriétaires terriens, a été l'ange gardien des sans-terres et des indigènes d'Amazonie. Il est décédé à l'âge de 92 ans. Son portrait avec à Rio de Janeiro, Anne Vigna.
Les anciens présidents brésiliens Lula da Silva et Dilma Rousseff lui ont rendu un vibrant hommage ce samedi. L'évêque émérite de l'État du Mato Grosso, dans l'ouest du pays, était surtout connu pour son action en Amazonie pendant la dictature militaire. Dans ses années 70, il s'était opposé aux grands propriétaires terriens qui s'attaquaient aux paysans sans terre et aux Indiens. Pour son action, l'évêque a été constamment menacé de mort par leurs tueurs à gages, à l'image de la sœur Dorothy Stang, dont il était très proche et qui a été assassinée en 2005 pour défendre les plus pauvres en Amazonie. Il était également un des fondateurs de la Commission pastorale de la Terre et du Conseil indigéniste missionnaire, deux organismes créés par des religieux partisans de la théologie de la libération et qui restent aujourd'hui les acteurs les plus importants dans la défense des Indiens et du mouvement des sans-terres. L'évêque espagnol d'origine n'a jamais quitté le Brésil. Sa dernière action a été de signer fin juillet avec 150 évêques brésiliens une lettre critiquant le président Jair Bolsonaro pour son incompétence et son incapacité à gérer la crise sanitaire du coronavirus.
Le contentieux ne date pas d'hier. Nouvelle intercalaire dans le classeur déjà fort épais d'un différend franco-britannique qui a pour théâtre la Manche, plus précisément le Channel, et pour enjeu les drames de l'exil. Paris et Londres s'accusent mutuellement de ne pas faire le nécessaire pour dissuader les réfugiés de prendre la mer sur des embarcations de fortune. Les traversées se sont en effet multipliées ces trois derniers jours et le gouvernement britannique envisage de prendre de nouvelles mesures au Tsoufi.
235 jeudi, 146 vendredi, 151 hier. Au cours des trois derniers jours, plus de 500 migrants ont traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Parmi eux, des femmes enceintes et des bébés. Accusée d'avoir perdu le contrôle de cette voie maritime, la ministre britannique de l'Intérieur a sorti les gros moyens. Un ancien de la Royal Marine a été nommé en charge de la lutte contre ces traversées clandestines et l'armée pourrait intervenir pour empêcher les bateaux d'atteindre les eaux britanniques. La députée conservatrice du Kent, Nathalie Elphick.
Ce qu'on voit avec les gardes frontières en ce moment, c'est qu'ils interceptent les bateaux et ils les escortent jusqu'au Royaume-Uni. Si on veut que la Navy ou les gardes frontières soient efficaces et rendent cette route impraticable pour les petites embarcations illégales, ils doivent renvoyer ces bateaux en France. Et nous devons nous assurer de l'accord de la France en ce sens.
Depuis déjà plusieurs jours, Londres et Paris se renvoient la balle. Le gouvernement britannique demande une action plus ferme de l'autre côté de la Manche. Les autorités françaises, elles, se disent pleinement mobilisées. Une réunion est prévue mardi au ministère de l'Intérieur à Paris avec le secrétaire d'État britannique à l'immigration, Chris Philp, pour essayer de trouver un terrain d'entente.
Au Tsoufi, à Londres, le désarroi du maire de la commune de Hurle-la-Parade en Lozère, où se déroule depuis hier soir une rave party. Ils étaient jusqu'à 15 000 à danser la nuit dernière, il ne serait plus que 5 000. Sur un site de pâturage de brebis sur le Causse-Méjean, d'où la colère des agriculteurs locaux et l'inquiétude des pouvoirs publics en pleine crise sanitaire. En Nouvelle-Calédonie, un incendie a complètement détruit la case maison traditionnelle du Sénat coutumier hier soir. Le lieu est un symbole important du territoire. C'est là que siègent en effet les représentants des chefferies Kanak. À moins de 2 mois d'un référendum sur l'indépendance du territoire, le troisième organisé en 6 ans, l'événement suscite une forte émotion. Il s'agirait d'un acte isolé et non politique. Les responsables continuent toutefois d'appeler au calme. Les réactions de Sonia Bakès, elle est présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie.
La case du Sénat coutumier, c'est un symbole important en Nouvelle-Calédonie. Alors ça fait 2 fois que des incendies de monuments symboliques, puisqu'il y a un mois, juste avant le 14 juillet, il y a sur le bâtiment de la province sud, le drapeau bleu blanc rouge qui a été brûlé. C'est vrai que là, ça fait quand même plusieurs fois, alors faut pas généraliser parce qu'en fait on est dans une action individuelle de quelqu'un qui squatte dans le quartier où l'incendie a eu lieu et qui en voulait à titre personnel au Sénat coutumier de ne pas l'avoir aidé à avoir l'eau et l'électricité gratuitement. C'est dramatique parce qu'effectivement le Sénat coutumier ça représente la société Kanak et que cette case c'est un symbole. Donc évidemment on est tous touchés de ce qui a été fait. Surtout, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est à 2 mois du référendum et que ça fait plusieurs fois que des symboles sont brûlés. Alors maintenant, visiblement, il n'y a pas de connotation politique, donc il ne faut pas non plus en faire, il ne faut pas dramatiser.
Des propos recueillis par Hélène Masquelier. Des eaux bleu turquoise tachées de noir, de l'huile épaisse qui se déplace vers les lagons. Des récifs coralliens uniques au monde, l'île Maurice endure une marée noire, un navire de marchandises japonais. C'est échoué le 25 juillet sur un récif de l'île Maurice, à quelques centaines de mètres au large de l'île, dans ses cuves 200 tonnes de diesel et 3800 tonnes d'huile lourde. Le ministre mauricien de l'Environnement reconnaît la situation de crise environnementale. Le vraquier s'est échoué en pleine zone humide classifiée. Antidia Sitores est porte-parole de Surfrider Foundation. Elle craint le pire.
Il y a des récifs coralliens qui ont déjà été heurtés par le navire quand ils se sont échoués, donc il y a un premier impact. Et puis, on le voit, il y a également tous ces écosystèmes spécifiques de ces régions-là qui sont les mangroves. Donc les mangroves, c'est des puits de carbone pour l'océan et pour nous, pour faciliter une régulation du climat. Et là, elles sont impactées de points faits, donc on va avoir des dégâts énormes sur ces espèces, cette flore. Pour les aspects écologiques vis-à-vis de la faune, pour l'instant, je n'ai pas eu de données spécifiques, mais c'est également un crâne parce qu'on a un fioul qui est lourd, donc peu raffiné, très gluant, comme on voit sur les photos. Alors, on n'est pas sûr du fioul qui va être équivalent à celui de l'Erika, qui était lui-même du fioul craqué, donc encore plus gluant. Mais voilà, on a cette présence de fioul lourd dans la cargaison qui est inquiétante. Si ça n'avait été que du fioul de propulsion, c'est sur du diesel qui est plus liquide, qui aurait eu tendance à s'évaporer dans 2-3 jours. Donc on a, c'est vrai que la marée noire est la partie immergée de l'iceberg des pollutions liées au transport maritime, mais on cherche, nous, une émulation environnementale dans ce secteur, puisque la régulation tarde.
Antidia Citores, porte-parole de Surf Rider Foundation, au micro de nos confrères de France Info. Le temps de demain lundi, encore caniculaire et orageux, 15 départements en alerte rouge, l'orange pour 54 autres départements, averses orageuses sur une grande partie du pays. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Sylvain Latu.